For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
For those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind.
Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar.
Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind.
Por los que partieron.
Que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca pa' que su luz te alumbre.
Su bola no nos mata, nos hacen más fuertes. Fuertes.
For those who protested, expressing their will.
C'est parti. Alors, je sais pas, dans le casque résonne plein de choses. Ça résonne beaucoup et on entend plein de choses derrière toi. C'est Canal Sud. On est le premier vendredi du mois. Le casque continue de résonner. Il y a vraiment un écho insupportable, mais c'est pas grave. C'est très fort ou c'est très fort, je sais pas. Et donc ce premier vendredi du mois, on fait l'entretien avec la personne qui s'est installée dans les murs de la radio Canal Sud pour tout le mois d'avril, du 7 avril au 30 avril. Et donc je reçois Adan Paul. Je prononce correctement ?
Exactement.
Voilà. Donc tu t'es installée sur les murs et oui, là maintenant ça va à peu près. notre technicien vient à notre secours.
Il faut être tournevis.
Et donc, on va faire un voyage loin, au Mexique, mm-hmm. puisque tes peintures relatent et parlent, et d'ailleurs sont très parlantes, hein, n'est-ce pas, de l'histoire du Mexique, en tout cas une histoire contemporaine, une histoire de lutte. Ce sont des peintures figuratives, très 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 colorées. Alors je ne sais pas si tu définis, alors on va parler peut-être d'abord de ton parcours de peintre, mm-hmm. Pourquoi tu utilises ce média, et d'où tu viens, quelles sont tes formations peut-être,
hein. D'accord, mais écoute, mais avant tout, mais merci pour l'espace que tu me donnes, et merci pour me permettre d'exposer ici. Bon, mon petit parcours de peintre commence, on va dire, bon, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je me souviens. Mais mon vrai parcours commence en 2000, année 2000, on va dire. Donc, mm-hmm. quand j'ai décidé de prendre et d'arrêter un peu la musique, parce que je venais d'un milieu des musiciens. Et donc, j'ai passé 4 ans en train de faire des concerts et de jouer autre chose.
En France, au Mexique ?
En France, en parallèle avec. Voilà. Mm-hmm. Et donc, je m'arrête la musique et j'avais besoin de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, j'ai décidé de prendre la peinture. Et avant tout ça, j'avais fait déjà une espèce d'introduction au Mexique. Car j'avais été sélectionné pour entrer à l'Université des Beaux-Arts, donc avant de venir ici, d'arriver en
et
France.
Et à partir de, puisque tu fais Paul Graff, à partir des graffes, donc tu fais des graffes sur les murs ou des...
Non, non. Disons que Paul Graff, c'est une sorte de... Si tu veux, j'ai étudié la communication visuelle en France, oui. donc en 2005, de 2005 à 2007. Mmh. Et donc, au fur et à mesure que j'ai trouvé mes idées et mes images, je me suis dit pourquoi pas lui donner un nom. Et le premier nom qui m'est venu assez facile, c'était Paul et Graf pour Graficos, on va dire en espagnol. Mm-hmm. Et donc, ce nom me semblait un peu évident. Enfin, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à signer mes toiles et tout ça.
Ah oui, d'accord. Donc, tu as commencé par quoi alors? Par des... Des dessins, parce que tu es notre illustrateur, photographe.
Oui, en fait, disons que j'ai toujours fait, lié au fait d'actualité, tout ce qui se passe.
Mm-hmm. Commentateur donc, un peu de...
Oui, monde. J'essaie de faire un peu une illustration pour chaque fait de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui me tient au cœur, mm-hmm. tout ce qui me touche. Et donc, c'est cette façon-là qui me permet de m'exprimer un peu. Et donc, j'utilise, l'illustration numérique. Mais quelque chose qui me plaît énormément, c'est justement la peinture et mélanger les grands formats et tout ça.
Oui,
et
c'est pour parce ça qu'il faut préciser que là, ce sont des grands formats, en effet.
Voilà, c'est ça.
Il y en a même certains qui sont posés contre le mur.
C'est ça, c'est ça. Voilà. En fait, voilà.
Mais parce qu'il y a du monde, hein, il faut qu'il soit grand parce que tu mets du monde dedans, dans tes toiles. Hein.
C'est ça. Mais disons que les principes, pour moi, c'est peu importe le support. Donc, ça peut être une barre de plaque au plâtre, un bloc en bois que je trouve dans la rue, je le prends et je l'utilise comme support pour exprimer mes idées ou ce qui me vient à l'esprit.
Oui, donc, parce que c'est une peinture acrylique, rapide.
Voilà,
c'est...
Si. Disons que moi, je me dis que dans ma démarche, il n'y a pas de règles. Donc, il n'y a pas de règles spécifiques, une technique spécifique. Mm-hmm. Moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du plaisir.
Et tu es autodidacte alors, hein?
On va dire que je suis autodidacte dans la mesure où je n'ai pas pris des cours de beaux-arts.
D'accord.
Donc j'ai pris des cours en communication visuelle, je suis mm-hmm. diplômé. Et ça m'intéresse le fait de transmettre quelque chose à partir d'une image. Mm-hmm. Mais tout ce qui est beaux-arts, ouais, je suis autodidacte et c'est plutôt les ressentis qui priment sur la technique, on va dire. Mm-hmm. Voilà, ça comme ça.
Et pour toi justement, toi qui es spécialiste justement de la communication visuelle, mm-hmm. Les nouveaux outils en fait ne t'apportaient pas ce que t'apportent, comme tu dis, un panneau de bois avec un pinceau.
Mais c'est pas le même plaisir. Les messages, ils passent de manière forte aussi avec le numérique. Ouais. D'ailleurs, j'ai compte monter un projet, mm-hmm. car j'ai déjà beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le numérique. J'ai créé plusieurs affiches aussi, en même temps que
mes peintures. Ah oui,
c'est
vrai que tes tableaux, on verrait bien aussi, oui, en affiche, c'est vrai.
Et donc, il y a plusieurs idées d'affiches qui sont déjà faites, mm-hmm. et il faudrait que je monte ce projet bientôt. Et je tiens à les montrer parce qu'il est déjà cuit, on va dire déjà.
Alors on dit parce que tu es en France et tu as toujours donc travaillé en France, mais mm-hmm. quand on dit Mexique, c'est parce que quand même dans tes peintures, alors mm-hmm. d'abord on va y revenir après sur le contenu, enfin, sur mm-hmm. ce que tu veux exprimer, mais on voit quand même une trace culturelle par rapport à d'abord le nombre de personnages sur le tableau, mmh. Les couleurs. Tu t'inspires quand même beaucoup de la culture mexicaine.
Ben disons que peut-être, oui, c'est l'inconscient collectif qui prime mon vécu au Mexique, qui fait que peut-être que j'ai cette trace-là dans ma façon de faire, peut-être. Mmh. Je ne me suis jamais posé la question mmh. si j'ai cherché vraiment...
On est des êtres sociaux chargés d'histoire.
Hein, exactement. Et donc, tu as l'histoire, et donc ça, quelque part, je les garde. Ouais. Et ouais. moi, ce qui m'a marqué dans tout ça, dans tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est que toutes les thématiques que j'ai fait des derniers tableaux, ces dernières quatre années de ma vie, mmh. c'est... voilà, je parle à chaque fois du Mexique. Et pourquoi je parle du Mexique, je m'ai posé la question. Parce que je pouvais faire parler de tout et de n'importe quoi avec mes peintures. Mais à chaque fois que je faisais un tableau, il avait une relation avec mon pays.
Ça s'imposait. Quoi.
Et voilà, et après, ça m'a paru une évidence. Et quand j'ai finalisé tous ces tableaux pendant ces quatre années, et je suis arrivé à la conclusion que oui, que j'avais des choses à retrouver par rapport à mes racines. Et justement, avec les vécus et la manière dont on gère la vie au Mexique, qui n'est pas simple du tout en ces moments.
Tes cas. Relations justement avec le Mexique, puisque toi tu vis en France, tu t'es né en France, non? Tu es né au Mexique?
Non, je suis né au Mexique, je suis resté les premiers 20 ans de ma vie au Mexique.
Ah oui, quand même une bonne partie.
Et des questions personnelles m'ont amené en mm-hmm. France, et donc maintenant ça fait une vingtaine d'années que je suis en France.
Et tu ne peux pas retourner ou tu es retourné au Mexique
ou... Je suis retourné, mais voilà, juste oui. histoire de voir la famille, de voir oui. les amis et tout ça. Oui. Mais voilà, mon lieu maintenant, on va dire que c'est pour l'instant. Pour oui. l'instant, c'est ici.
Oui, non, mais on comprend qu'en effet, à 20 ans, le Mexique fait partie de ta vie. Quoi.
C'est ça. Oui. C'est une marque indélébile, on va dire.
Indélébile. C'est ça. Et justement, sur l'indélébile, on va venir donc à tes tableaux qui tous ont des titres mm-hmm. et tous ont une signification, un signifiant que tu expliques. D'ailleurs, tu fais des textes mm-hmm. autour. Donc, par exemple, une information qu'on a beaucoup relayée ici. À l'antenne de Canal Sud sur l'enlèvement des étudiants.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, tu as fait un magnifique tableau, ce que tu appelles l'arbre de vie. Mm-hmm. Et en fait, ce sont des personnages agglutinés et qui forment un arbre. Puis, de temps en temps, dedans, il y a une tache, il y a un personnage plus noir ou plus... Mm-hmm. Enfin, tout en en mettant une multitude, mm-hmm. tu différencies quand même. Tu arrives à faire des individus, non?
Disons que cette idée d'arbre de vie m'est venue justement... pendant les faits du Ayotzinapa, la disparition des étudiants.
Oui, qui ont été enlevés par la police et qui sont morts. Quoi,
exactement, ils ont été enlevés par la police. Il y a encore les parents des étudiants qui cherchent ces enfants. Et c'est vrai que quelque part, dans la façon qu'on doit, avoir, c'est de penser qu'ils sont encore vivants. Donc il faut entretenir cette idée-là que quelque part, ils sont vivants et il faut vraiment essayer de gérer tout cet état d'esprit et qu'on n'oublie pas, justement, parce que c'est vraiment important. Et justement, j'ai parlé avec une personne tout à l'heure au vernissage. J'ai dit que ces tableaux, ils ont été faits à partir du moment où les faits d'Ayotzinapa ont commencé à se succéder mm-hmm. au Mexique.
Parce que c'est dur quand même, la vie au Mexique. Là. Tu peux nous en dire deux mots sur la police, la répression,
bien
etc.
Bien sûr, bien sûr. Disons que moi, ça fait, comme je vous dis, ça fait 20 ans que j'habite pas dans les pays. J'ai mm-hmm. vu, à chaque fois que j'y retourne, je vois un peu les changements qu'il y a. Et surtout maintenant avec les gouvernements qui nous gèrent, qui essaient de nous gérer, c'est vrai qu'on n'est pas bien gâtés quand même à ce niveau-là.
C'est dur. Et donc tu as un autre tableau sur les manifs des étudiants, donc des étudiants qui revendiquent, comme ici en France et comme beaucoup dans le monde, mm-hmm. mais là c'est plus dur, la liberté d'expression, qui demande des moyens, etc. Mm-hmm.
Bien sûr, bien sûr.
Donc ça bouge quand même au Mexique, il y a quand même, comme tu dis, il y a sûrement un gouvernement autoritaire, mais le peuple bouge quand même.
Bien sûr, disons que voilà, à partir de ce fait-là, des 43 étudiants disparus, mm-hmm. donc quelque chose... et s'est transformé en fait avec la société mexicaine a commencé à dire ça suffit en fait. Oui. Donc alors que ça fait des années, on connaît bien l'histoire d'Amérique latine, de disparus et répression et beaucoup de choses enfin, atroces. Oui. Mais bon, dans les cas du Mexique, c'est à partir de ces faits-là, les gens ils ont commencé à se dire bon, ça suffit, basta. Et donc et ça fait un peu le tour du monde. Et nous, en tant que Mexicains habitant dans un autre pays, on a, je ne sais pas si c'est d'obligation, mais on a les capacités à pouvoir transmettre ces messages, parce que justement, on a cette liberté-là pour pouvoir aider enfin, nos concitoyens mexicains et passer la parole, quoi, et faire courir les nouvelles. Et donc, c'est de cette façon-là que j'arrive à m'exprimer, et c'est pour ça que j'essaie d'exposer pour transmettre ces messages-là.
Voilà, parce que les gens voient le tableau, après lisent le texte et donc prennent l'information complète.
C'est ça.
Et après font le lien, pas le lien, puisque ce tableau Arbre de vie suffit aussi en lui-même. C'est une belle œuvre qui dénote par rapport aux couleurs, par rapport aux autres tableaux. Là, t'as choisi un monochrome mauve à peu près.
Oui, disons que c'est. Voilà, la démarche, c'était choisir une couleur assez foncée, assez sombre. Mais garder cet esprit d'évolution, de vie, et justement parler de traces d'histoire, quelque chose qui nous marque quand on vient dans notre pays, et on les garde à nous, et donc avec cet arbre de vie qui est sombre par rapport à la situation du Mexique, on pourrait dire ça, il y a quelque chose qui s'est construit, qui va continuer à pousser.
Et surtout qui est basé sur les gens.
Exactement, et c'est basé sur l'union, et sur la tolérance, sur le fait de se souder,
de résister ensemble,
et de résister ensemble. Voilà, c'est ça l'idée en fait de ce tableau.
Oui, mais il est vraiment très, très, très expressif, réussi quand même, enfin, moi, à mon idée. Il y a aussi une autre dénonciation qu'on pourrait voir aussi par rapport à l'Église et aux curés et aux abus des prêtres pédophiles.
Bien sûr.
Donc là, là tu joues sur les visages qui sont, enfin les visages, les têtes, qui sont plus pas, je dirais pas agressifs, mais je sais plus.
Ouais, ils sont dans un état de stress permanent.
Oui, donc,
ces images-là me sont venues à partir
Il y a beaucoup au Mexique, l'Église catholique a une
disons
influence.
Disons que 90% de la population est catholique. Donc, et oui, l'Église elle a un fort pouvoir dans les pays. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai réalisé ce tableau, il y avait les papes qui allaient au Mexique, depuis Cuba, pour faire une tournée de 5 jours ou quelque chose comme ça. Alors que pendant ce temps, il s'était passé beaucoup de choses, justement avec les disparitions, des fosses clandestines à côté. On parlait déjà, il y avait des rumeurs, comme quoi il y avait, dans l'Église, il y avait des fortes probabilités et des accusations envers les prêtres et les curés, des pédophilies, et voilà. Et donc ça m'est venu à l'esprit cette idée de représenter ces curés un peu et son univers un peu stressant, sombre, un peu noir. Mais à la fois un peu...
Noir, mais très coloré quand même,
enfantin,
le tableau.
En gardant ce côté enfantin, justement, qui est en relation avec...
C'est ce qui fait d'ailleurs la force du tableau, justement, parce que dessin enfantin, mais chose, et ce qui est exprimé ne l'est pas. Et
exactement. C'est cette ambiguïté, cette ambiguïté, elle existe aussi dans toutes ces problématiques-là, pédophilie et compagnie.
Ah, tout à fait. Et pas qu'au Mexique.
Dans
le monde
entier. C'est ça. C'est ça. Et les pires, c'est que ces genres d'informations, on les connaît tous. Mais ça continue à se faire et il n'y a pas moyen de mettre en évidence.
C'est genre tabou, silence.
Ça reste un tabou et donc...
Non, mais on sait qui on punit, mais ces gens...
C'est ça. Et comment on ne peut pas punir de cette façon-là, il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de s'exprimer. Et l'image, c'est un moyen pour pouvoir justement, pourquoi pas, dénoncer ces genres de problématiques. Voilà.
Mais après aussi, tu es dans la critique sociale, tu le dis, mais aussi, tu parles aussi de « nous sommes construits de rêves et aussi de réalités qui dérangent ». Donc on a parlé un peu des réalités, mais les rêves, alors il y a un tableau, je classe du côté des rêves, quand on appelle le coyote pour la protection. Donc ça, c'est du rêve, mais aussi, c'est aussi des mythes mexicains.
Oui,
ce coyote
Disons que ça, c'est dans la mythologie indienne, aztèque, même maya parfois, et Huichol, donc tout ce qui est au sud du Mexique, les communautés indigènes qui habitent au Mexique. Ils gardent des histoires et des mythes, justement, et un peu qui ressemblent à un rêve. Par exemple, cette histoire du coyote, donc... Voilà, il y a certaines communautés qui pensent qu'il y a certaines personnes, quand ils naissent, ils ont une faculté de se transformer en n'importe quel animal et devenir protecteur de quelqu'un et utiliser cette magie pour protéger...
Mais ils se transforment pendant leur vie ou quand ils meurent?
Pendant leur vie, en fait.
Ah oui, donc, oui, oui.
Voilà, ils peuvent se transformer à n'importe quel moment.
Mais dans les rêves, quoi, comme on va dire.
Voilà, c'est ça. Et cette image-là...
Et le coyote serait protecteur, parce que nous, un coyote, on le voit.
Et les coyotes, bon, disons que voilà, tu peux être transformé en bon ou en mauvais, quoi. Donc, oui, et moi, dans cette image que j'ai prise, dans ce tableau que j'ai fait, j'ai décidé de prendre ces côtés de rêve un peu fantastiques, mais en tirant vers le positif, l'effet de pouvoir protéger quelque chose pour l'éternité.
Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près, on dira, un des rares visages, on peut dire visage, féminin, et qui, quelque part, pourrait représenter quelqu'un. Parce que tous les autres personnages dont on parle sont... Ils existent, mais ils sont quand même anonymes dans le trait. Alors que là, il y aurait moins d'anonymat dans ce tableau.
Bien sûr, oui, il est centré sur un personnage en particulier. Oui, donc, oui. Voilà. D'ailleurs, il est marqué sur l'affiche. Et donc, je tiens... Je tenais à l'envoyer ce message. Et donc, voilà, par les biais de cette image-là. Oui.
Donc là aussi, la peinture sert à envoyer un message de protection à une personne. Oui,
de protection ou un souhait une image des rêves. Voilà, c'est ça.
Donc tu ne t'interdis pas, par rapport à la critique sociale, aussi d'approcher un monde plus abstrait
Oui, disons que moi, quand j'ai commencé à peindre, je n'avais pas de démarche spécifique. Donc j'ai peint parce que c'est un ressenti et parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, une idée ou quelque chose comme ça. Et donc, il se trouve que depuis 4 ans, la seule chose que je peux exprimer quand je regarde les journaux et quand je me renseigne sur tout ce qui se passe dans mon pays, il se trouve que ce sont des choses très fortes et très, très noires et très sombres. Et donc, voilà, jusqu'au présent, depuis 4 ans, tous les tableaux que j'ai faits, c'est en essayant d'exprimer cette frustration pas pouvoir faire quelque chose pour que ça se calme. Et donc, pour l'instant, oui, je suis ouvert à faire de tout. C'est pas que la critique sociale.
C'est selon ce qui te traverse, quoi.
C'est ça.
C'est le propre du peintre, de l'artiste, d'exprimer ce qu'il construit, en fait.
Exactement.
Mais quand tu dis noir, je voudrais préciser aux auditrices et aux auditeurs qui vont venir voir, c'est que c'est plein de couleurs, que c'est vraiment... ça fait penser à la fête des morts, là, où on danse avec on fait danser des petits cadavres, on leur met des costumes de dentelle, etc. C'est-à-dire, c'est une noirceur vivante.
Bien sûr, bien sûr.
T'es très proche de la vie, quoi.
Oui, d'ailleurs que...
Alors que nous, ici, on sépare, on fait quand même des cérémoniales noires, ça serait noir, quoi. La mort, c'est noir, des choses comme ça, quoi.
D'ailleurs, c'est quelque chose de particulier au Mexique, c'est l'un des seuls pays, bon, je sais pas s'il y en a parmi d'autres, dans lesquels on peut rire de la mort, on peut fêter avec la mort. Et c'est quelque chose qui est ancré en nous, en fait, l'effet de fêter la mort et de les voir comme quelque chose de festif.
Et donc, c'est intéressant de faire avec la vie notre mortalité, quoi. C'est ne pas se cacher.
Exact. Je ne sais pas si inconsciemment, quand je fais ma peinture, et en les faisant très colorées, même si les thématiques elles peuvent être assez dures. Mais ça reflète un peu cette façon dont on vit au Mexique. Parce que d'une part, c'est vrai, il y a toute une culture hyper riche. Et d'une autre part, il y a un gouvernement qui nous tient hyper contrôlé. Donc, c'est ce contraste-là qui
ressort. On peut penser que les gouvernements passent. Bon, ils mettent longtemps à passer, mais on ne sait jamais.
Exactement.
On peut penser ça. Et ensuite, Il y a une autre série série, en tout cas je pense à un tableau, où là on n'a plus ces petits personnages, cette foultitude de gens, mais trois personnages. Et alors moi j'ai beaucoup aimé la phrase, que je ne me rappelle plus, peut-être que je me trompe. Le monde se divise en deux, les indignes et les indignés.
Bien sûr.
Les indignes et les indignés, juste un petit accent et ça change tout. Et alors là on a trois personnages. Donc là tu voulais représenter des institutions, des...
Oui, en fait, disons que là, les trois personnages, c'est les procureurs de justice mexicains.
Oui, oui.
C'est le président de la République, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a une sorte de rebelle. Donc, un rebelle avec une masque de lutteur. Donc, pour moi...
Un indigné.
Pour moi, c'est un indigné. Quelqu'un qui se bat tous les jours et quelqu'un qui essaie de, justement de porter ses idées et de montrer qu'il... Il ne va jamais se taire, il va continuer à faire passer...
Mais c'est quoi ce masque de lutteur que tu dis ?
Et oui, ce masque de lutteur, c'est une tradition aussi au Mexique. C'est l'un des sports les plus connus au Mexique et à la capitale et tout ça.
C'est la lutte.
C'est la lutte libre. Et il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses autour de ça.
Et ce masque comme nous, les catcheurs, c'est ça un peu
c'est... Si, c'est comme les catcheurs.
Ah,
et donc, cette masque-là, justement, montre, bon, de manière métaphorique... la façon de lutter, justement, de lutter contre quelque chose. Et donc, ça me semblait un peu amusant de jouer avec ces contrastes-là et d'envoyer ça envers les gens qui sont placés haut.
Ouais. Enfin, ouais.
Donc, voilà, c'est ça.
Et tu as d'autres choses à dire sur tes peintures ? Parce que moi, j'ai fait un peu le tour, mais peut-être que je n'ai pas tout vu, que tu voudrais partager.
Non, mais en fait, cette exposition, pour moi, c'est importante. Et plus que la peinture en elle-même, c'est le fait de pouvoir passer ces messages-là et que les gens en France, enfin, les gens qui habitent ici, puissent peut-être passer et se renseigner un peu et que ça donne envie d'aller voir... ces problématiques-là, et partout, dans ces cas-là, dans mon cas, c'est le Mexique. Je sais qu'il y a plein de problématiques autour du monde, mais bon, que ça laisse un petit espoir de penser que les gens, ils veulent encore essayer de changer quelque chose et de s'informer sur les problématiques autour du monde. Se centrer sur un endroit spécifique.
Oui, c'est bien d'utiliser la peinture, une super expo, et puis quand les gens viennent, en plus, les textes que tu as mis à côté sont extrêmement lisibles, très bien installés, donc
on ne fait pas
un effort pour lire des tonnes de... Non, c'est très, très clair et très bien exprimé et synthétisé.
D'accord.
Et c'est vrai qu'après, ça donne envie de dire « Ah bon, tiens, il s'est passé ça au Mexique, etc. »
C'est une façon de dénoncer, c'est ma façon de mettre un petit grain de sable en tant que Mexicain et de faire passer les messages.
C'est utiliser la peinture comme un média, quoi.
Exact, et pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé avec ces étudiants et avec tous les morts qui commencent à ressortir. Et ça s'arrête pas.
Et après, tu exposes à d'autres endroits ou tu as déjà fait d'autres expositions
ou
tu as des projets peut-être
hein? Ben, j'avais déjà exposé dans plusieurs expos collectives, également dans des galeries à Cahors. J'ai exposé au musée des Jacobins dans le cadre d'un festival très contemporain, à Terranova, beaucoup d'endroits.
Terranova, c'est petit, il n'y a pas trop de place. C'est la première fois que tu as une salle entière
Pour moi, voilà, c'est justement, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est la première fois que j'ai eu une
salle. Elle est belle, la salle, il y a la place.
Très belle salle pour mettre tous les tableaux, et c'est vachement bien, je vous remercie d'ailleurs.
Non, il n'y a pas... Ça fait partie du concept de la radio Canal Sud, de mettre à disposition, donc que ce soit la radio, les micros, ou que ce soit le mur, puisque cette salle, pour nous, c'est une grande salle, et ça fait des années que tous les premiers vendredis du mois, donc on reçoit quelqu'un. Et c'est intéressant, avec tout ce que, en plus de la peinture, tu nous amènes aussi l'histoire du Mexique. Tu parles aussi, à un moment donné, j'ai pu te revu dans le tableau, mais tous ces morts par rapport aux enlèvements, c'est un peu du côté de Ciudad Juarez ou c'est autre ailleurs, non ? C'est entre l'Amérique et le Mexique, là où il y a ces disparitions de femmes et tout ça
En fait, disons que plus le temps passe, et au fur et à mesure qu'on se dit « écoute, ce qui s'est passé, c'est ignoble, il n'y a pas de mots pour dire, et tu ne penses pas qu'il va y avoir autre chose de pire ?» Et oui, effectivement, quand on se rend compte, et à chaque fois que le temps passe, on se rend compte qu'il y a des choses qui s'aggravent de plus en plus. Et donc, en ce moment, oui, il y a beaucoup des fosses clandestines dans le sud du Mexique un peu partout. Et donc on s'est dit que c'est inadmissible.
Et moi je pensais sur le nord du Mexique, à cette frontière No Man's Land où il y a les usines. Et alors je le prononce très mal, tu m'as pas compris, Ciudad Juárez.
Las Muertas de Juárez. D'accord.
Et où là, bon, en effet, ça a quand même été exprimé. Et puis notamment par rapport aux femmes, quoi, puisque c'est souvent des femmes qui sont victimes.
Bien sûr.
Intéressant, c'est la force, soit de la famille, soit des amis, des gens. Qui veulent absolument savoir, comme tu dis, ou comme cet arbre de vie, les gens n'abandonnent pas ces 40 étudiants, veulent savoir, tant qu'on ne les a pas retrouvés, ils sont vivants, etc.
Exactement.
Cette ténacité qu'on a vue en Argentine avec les femmes de la place de Mai, comme ça.
Bien sûr, avec la guerre des carcérales.
Et ça, c'est possible parce que je pense qu'il y a un soutien aussi populaire, non ?
Bien sûr, oui, et c'est justement ça, ce soutien populaire qui s'est élevé en 2014.
Oui.
Il faut qu'on les garde dans cet esprit de les garder dans notre mémoire, quoi. Donc, de continuer à se dire, écoute, ça, on doit continuer à faire passer la voix, même si dans notre quotidien, parfois on n'a pas le temps, parfois on a d'autres choses à gérer à côté de nous. Il faut continuer à garder cette espèce de mémoire et continuer à faire passer de temps en temps les messages pour que notre gouvernement, il n'oublie pas qu'on est derrière eux et qu'on est en train de surveiller
Oui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu parles de France, il y en a qui parlent de partout, c'est l'universalité de la peinture, c'est-à-dire que tu peux transmettre ça, et c'est ça qui est important, c'est que ça sorte aussi des murs.
Des frontières, oui.
Et en parlant de murs, de ce fameux mur que Trump veut, mais qui est déjà construit, en partie déjà. Il y a déjà un mur qui partage.
Exactement. Déjà, tout ce qui... C'est comme je vous dis. Donc, plus le temps passe, plus il y a des choses qui s'aggrave et des choses qu'on ne s'attend pas. Et
on pensait qu'un mur, ça suffisait, qu'il n'allait pas en construire
plus. Et donc, justement, ces murs de Trump et ces changements de président américain nous posaient des nouveaux problèmes en tant que Mexicain et en tant que Latino-Américain. Donc, on verra la suite de l'histoire. Peut-être que ça me donnera des idées pour des nouveaux tableaux, pour des nouvelles choses.
Et en plus, surtout pour illustrer la lutte, quoi, parce que je pense que
c'est
la lutte du peuple mexicain.
C'est ça.
Mais on te remercie beaucoup, Adán Paul, d'être dans les murs de Canal Sud pour cette belle expo, parce que même si on parle de choses graves, elle est vraiment belle, cette expo.
D'accord.
Et ce qui est bien, qu'en étant belle, elle dit aussi des choses importantes. Tu as un site
Pour l'instant, je suis en train de refaire mon site, justement, il n'est pas en ligne, mais vous pouvez me trouver sur Instagram, adan.paul.
Donc, Paul, Adán, c'est A-D-A-N, Paul.
D'accord, et sur Facebook, mon profil Facebook, il est ouvert, il y a tous mes travaux, toutes mes galeries et tout ça.
D'accord.
C'est Adán Paul, Adán espace Paul,
voilà,
Facebook,
tout simplement.
Tout simplement, là vous pouvez trouver tout ce que j'ai fait.
Et je ne sais pas, on avait demandé de la musique, on n'a pas eu le temps d'en mettre, mais tu peux la mettre maintenant, tu avais choisi. On en a eu en introduction, et pour finir,
voilà.
C'est quoi?
En fait, c'est un groupe... Un groupe mexicain, c'est un chanteur qui s'appelle Lengua Alerta, et lui aussi il est assez engagé sur les mêmes idées, les mêmes propos de communion et de lutte.
D'accord.
Donc on vous laisse avec.
Mais merci beaucoup.
Merci à vous.
Mi riqueza no se mide con billetes, no. Mi riqueza es más que carro y ropa cara. Mi riqueza no la puedes corromper. Mi riqueza es pura y no se enferma de poder. Mi riqueza y la tuya son iguales. De riqueza estamos hechos todos, óyelo bien. Riqueza material, ¿de qué te sirve si dentro de ti no hay claridad? Riqueza material, fama y fortuna es ilusoria y pasajera tu felicidad. Riqueza material de nada sirve si dentro de ti no estás en paz. Riqueza material, fama y fortuna, con esa barca débil no te aconsejo navegar, no. Yo no te aconsejo navegar en ese mar, no. Hay muchas apariencias, mucha vanidad, y la marea sigue subiendo y te puede tumbar. Bling, bling, brillan joyas en el interior. Bling, bling, son las que tienen verdadero valor. Bling, bling, esta riqueza no se puede comprar. Un tesoro que dentro del pecho hay que desenterrar. Bling, bling, brillan.
brillan joyas en el interior, bling bling. Son las que tienen verdadero valor, bling bling. Esta riqueza no se puede comprar, un tesoro que dentro del pecho hay que desenterrar.
Quiero contarte para mí cuál es el verdadero bling bling. Esa luz resplandeciente que no conoce fin. Le dicen Dios, algunos Cristo, Buda, Krishna, Allah o Yah. Pero no importa en este momento cómo le quieras llamar.